Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Nous vivons au milieu d'une mer de pauvreté. Néanmoins, on peut réduire cette mer. Notre travail n'est qu'une goutte dans un seau, mais cette goutte est nécessaire. Amis auditeurs, bonjour. La citation que vous venez d'entendre est de Sainte Mère Teresa, qui, avec son travail, a opposé à la mer de pauvreté un océan de compassion. Partons aujourd'hui à la découverte d'une association qui tente elle aussi d'endiguer la misère au Cambodge. Amis auditeurs, vous êtes bien sûr Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie, sur Radio Notre-Dame et RCF. Cette association, amis auditeurs, s'appelle Pour un sourire d'enfant, et j'ai aujourd'hui le privilège d'accueillir sa présidente Guylaine Dufour. Bonjour madame.
Bonjour Joseph.
Guylaine Dufour, l'association Pour un sourire d'enfant est très récente, elle ne naît qu'en 1995. Racontez-nous un petit peu les origines de cette association.
Ok, bah, écoutez, je suis très heureuse d'avoir l'occasion d'en parler. Merci Joseph. Alors très récente, mais déjà presque 30 ans. Et PSE, pour un, on va dire PSE, à chaque fois c'est plus court que Pour un sourire d'enfant, bah, c'est, a été créé par un couple, qui pourrait être vos grands-parents, qui est Christian et Marie-France Despalières, qui se sont trouvés au Cambodge en 95. Ils étaient partis là-bas pour une autre ONG, SIPAR. Et alors qu'ils arrivaient au bout de leur mission pour le SIPAR, ils ont découvert la situation des enfants chiffonniers qui travaillaient, mangeaient, dormaient sur cette décharge municipale de Phnom Penh. Et ils ont vu ça. Ils se sont dit, on ne peut pas avoir vu ça et continuer à vivre comme avant. Donc ça a été mais vraiment instantané. Quasiment le jour même, ils se sont dit, bon, on ne rentre pas en France, on reste ici, il faut faire quelque chose.
Ces enfants, ils vivaient dans la décharge, ils passaient leur temps à fouiller dans la décharge, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
C'était effectivement des enfants qui vivaient là avec leur famille, dans des masures autour de la décharge, et qui vivaient du recyclage. Mais recyclage, à l'époque, n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. À essayer toute la journée, avec un bâton et un sac à glaner, trouver un peu des canettes, des morceaux de plastique, des morceaux de métal, qu'ils revendaient. En se faisant exploiter à des revendeurs là au bord de la décharge. Et effectivement, donc, des enfants qui cherchaient à gagner quelques sous et qui quelquefois rentraient chez eux, s'ils n'avaient pas gagné assez d'argent, les parents les renvoyaient sur la décharge jusqu'à qu'ils rapportent un peu plus. Et puis ils dormaient là, ils se nourrissaient de ce qui avait l'air pas trop pourri. Voilà, Chris et Marie-France ont vu ça. Et ils se sont dit, bon, il faut déjà qu'on commence à les nourrir. Et ils sont rentrés, c'était en décembre 95, ils sont rentrés à Noël en France. Ils ont réuni leur famille, leurs frères et sœurs, leurs amis proches. Et ils leur ont, avec des diapos, à l'époque c'était des diapos, il n'y avait pas de présentation PowerPoint, etc. Et encore moins vidéo, ils ont demandé, cherché à demander à leurs amis, proches, un peu d'argent pour pouvoir offrir un repas déjà par jour à ces enfants, à ces petits chiffonniers.
Et c'est là que l'histoire de Pour un sourire d'enfant de PSE a démarré. Aujourd'hui, Guylaine Dufour, comment est-ce que vous faites pour encore aujourd'hui aider concrètement ces enfants ?
Déjà, Christian et Marie-France, en 96, ont commencé à les nourrir. Et ils leur ont demandé, à l'époque, à ce moment-là, ils leur ont demandé, mais de quoi avez-vous besoin ? Parce que l'idée de Christian et Marie-France, c'était de répondre à des besoins et aux besoins prioritaires. Bon, déjà, se nourrir. Et les enfants eux-mêmes leur ont dit, mais on voudrait un repas par jour et aller à l'école comme les autres enfants. Donc, Christian et Marie-France, c'est pas compliqué à l'époque. Ils louaient une maison à des Cambodgiens en ville. Ils ont créer une classe, ouvrir une classe dans leur chez eux. Première année où ils ont commencé à avoir quelques dizaines d'enfants qu'ils accueillaient pour leur faire l'école. Ils ont fini par se faire foutre à la porte par le propriétaire Et donc, voilà, donc juste pour résumer encore un peu le départ, ils sont retournés en France, réunis l'année suivante, réunis encore des amis. Des amis se sont organisés pour leur organiser des petites séances pour faire connaître leur association. Et ça a permis à Christian Marie France d'acheter un terrain, de construire des premiers bâtiments d'école. Donc, et petit à petit, c'est développé comme ça. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, 29 ans plus tard, notre action est organisée autour de 5 programmes. Le premier, c'est la protection. Protection, parce qu'il faut savoir que ces enfants, énormément, beaucoup d'entre eux, vivent chez eux dans des situations de maltraitance. Donc, première urgence, c'était protéger. Donc, créer un pensionnat pour ces enfants-là. Donc, c'est protéger, nourrir, soigner. Donc, il y a au sein de PSE un pensionnat, un internat, mais il y a aussi un dispensaire, une infirmerie. Et puis, scolariser. C'était prioritaire, scolariser. Et donc, ils ont créé... Alors, la première école qu'ils ont créée, que nous avons toujours aujourd'hui, c'est le centre de rattrapage. C'est-à-dire que ces premiers enfants de Christian et Marie-France sont scolarisés, ils n'étaient jamais allés à l'école. Ils avaient 3-4 années de retard scolaire. Et donc, il s'agissait de rattraper. Donc, ils ont créé sur place le centre de rattrapage où les enfants font 2 années en une. Et ça, aujourd'hui, nous avons toujours ce programme, centre de rattrapage. Et les enfants qui ne sont pas qui n'ont pas plus de 2 ans de retard, sont scolarisés en école publique. Mais alors, dans nos programmes, donc, nous avons protégé, nourrir, soigner, scolariser et ensuite former à un métier. Parce que Christian et Marie-France se sont aperçus qu'une fois que ces enfants que nous les avions amenés jusqu'au brevet, souvent, bon, arrivés au brevet, ils avaient chez nous, ils ont 15 ans, 16 ans, là-bas, ils avaient 17, 18 ans, et ils repartaient travailler, bien évidemment, mais avec juste le brevet, c'est pas ça qui allait leur donner un métier meilleur que leurs parents. Beaucoup, on allait les retrouver sur la décharge, ou des métiers non qualifiés. Donc, d'où l'idée de créer une formation professionnelle. Et donc, notre cinquième programme, c'est former à un métier.
La devise de Pour un sourire d'enfant, c'est de la misère à un métier. On sent véritablement que l'éducation est au cœur de vos préoccupations et des préoccupations de PSE. Pourquoi est-ce que c'est l'éducation qui sort de la pauvreté?
Pourquoi c'est l'éducation qui sort de la pauvreté? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que, un peu comme pour nos propres enfants, l'éducation, l'école, c'est prioritaire. Mais particulièrement au Cambodge, parce que les plus pauvres, les enfants, tous ces enfants que nous accueillons dans nos programmes, ils vivent dans des bidonvilles, dans des communautés où il n'y a pas de culture, scolarisation, éducation, école, encore moins éducation supérieure, formation professionnelle non plus. Donc si nous, si une ONG comme PSE n'intervient pas pour ne serait-ce que faire savoir à ces enfants, faire savoir à ces familles que en allant à l'école et en persévérant jusqu'à une formation professionnelle, et si possible même après jusqu'au bac et jusqu'à l'université, ils n'ont aucune chance de sortir de cette misère.
En 1995, le Cambodge sort de la période Khmer avec Pol Pot qui a massacré un tiers de sa population. Aujourd'hui, en 2025, où en est la situation, Guylaine Dufour? Est-ce que le Cambodge est encore un pays ravagé par la pauvreté ou est-ce qu'on sent quand même des améliorations depuis la fin de la période Khmer?
On peut vraiment dire que le pays se développe, connaît un développement très clair, très net. Il a eu toutes ces dernières années, jusqu'à la période de la pandémie, un taux de croissance de 7%, bon, qui a baissé depuis la pandémie. Mais c'est un pays qui se situe parmi les pays à revenus intermédiaires. Mais ce qu'il se passe, c'est que, comme dans beaucoup de pays qui sont en développement, les écarts se creusent entre les plus pauvres et les plus riches. Donc l'économie se développe. Les ressources principales du pays, ce sont le tourisme, hein, parce qu'on imagine avec Angkor, la beauté de ce pays. C'est le textile,
oui.
Des boutiques. Enfin, je ne vais pas faire de promotion pour une petite de marque, mais quand on parle de la fast fashion, beaucoup de l'industrie vestimentaire se passe là. Chaussures, même des vélos. Mais c'est une économie qui permet à une classe moyenne d'émerger, c'est certain. Mais les plus pauvres, eux, restent en marge.
Pour vous, qu'est-ce que c'est les plus grands problèmes auxquels sont confrontés les enfants actuellement ? Est-ce que c'est le manque de nourriture ? Est-ce que c'est le logement ? Est-ce que c'est le manque d'éducation ?
Je vais même vous dire, le premier, c'est la maltraitance.
D'accord.
Parce que vous évoquiez les 30 ans de guerre civile, la période Khmer Rouge, au cours de laquelle un tiers de la population a été exterminée, essentiellement toutes les personnes qui avaient un minimum d'éducation, de formation, lettrées. Donc, les enfants, ceux qui sont enfants aujourd'hui, c'est la deuxième, troisième génération depuis la fin de cette période Khmer Rouge. Mais les parents ont été élevés par des grands-parents qui ont été complètement déstructurés, tout le système de valeurs déstructuré. Donc, il y a beaucoup de violence, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, beaucoup de désespoir, et ça se reporte beaucoup sur les enfants. On a beaucoup de cas, on voit beaucoup de cas d'esclavage domestique, d'enfants, de petites filles, de petits garçons qui sont vendus à des familles pour rembourser les dettes que la famille a. Des familles qui sont obligées de s'endetter pour payer des frais de santé. L'exploitation, et puis effectivement le manque d'accès à l'école s'il n'y a pas des coups de pouce qui sont donnés par des ONG. L'alimentation, bien évidemment. Donc c'est dès le début que nous intervenons avec les tout-petits pour aider les mamans enceintes, les mamans allaitantes à avoir accès à l'hygiène nécessaire et puis à du lait. Nous intervenons dès le début en apportant, fournissant du lait maternisé aux mamans qui ont de jeunes enfants. Puis nous avons sur place dans les bidonvilles, ce que nous appelons les communautés, des paillotes, des centres de communauté, je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, moi je préfère utiliser le mot paillote qui est plus parlant, centre communautaire, où nous accueillons les tout-petits. Nous sommes organisés pour que les tout-petits de moins de 3 ans puissent être pris à la journée chez des assistantes maternelles, de façon à ce que les mamans puissent travailler et que les grandes sœurs aussi puissent aller à l'école. Et puis à partir de 3 ans, sur place, dans les communautés, nous avons donc ces paillotes, ces centres communautaires, dans lesquels nous avons créé des classes de maternelle.
Amis auditeurs, nous replongeons au Cambodge tout de suite après une petite pause musicale.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, prennent le temps, ne font que courir. Merci. La 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 merci bien pour la pièce.
En ce moment c'est dur,
je confesse.
Enfin je vais m'en sortir,
je l'atteste.
Toujours avoir un toit,
une adresse.
Si de toi à moi,
c'est dur, je stresse.
Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire,
à part l'ivresse comme futur. Que tes promesses en veux-tu.
Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche.
Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je passe la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonner.
Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le restant est où? Et tout un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Et c'était Un homme debout de Claudio Capeo, un hommage à la pauvreté et au SDF de France. Et on retombe tout de suite dans la misère du Cambodge avec Guylaine Dufour, présidente de l'association Pour un sourire d'enfant qui œuvre au cœur du Cambodge. Guylaine Dufour, juste avant la pause, vous nous parliez justement de cette misère, de cette pauvreté cambodgienne et de cette action de Pour un sourire d'enfant qui cherche à extirper précisément à travers l'éducation et à leur donner un métier. Comment est-ce que concrètement vous agissez pour que ces enfants trouvent un métier ?
Bien, effectivement, nous nous engageons à sortir l'enfant de la misère et l'amener jusqu'à un métier. Un de nos enjeux principaux, c'est de veiller à lutter contre les décrochages scolaires. Parce qu'il faut savoir que ces enfants souvent arrivent déjà un peu âgés. Et une fois qu'ils ont 17, 18, 19, 20 ans, c'est très difficile de les garder. Ils arrivent, ils ne sont absolument pas soutenus à la maison. Il n'y a pas de culture, éducation chez eux. Donc, le parcours que nous leur proposons doit vraiment être, nous devons veiller à individualiser le parcours de scolarisation pour répondre à la fois aux capacités de l'enfant, à sa situation familiale, et veiller également à nourrir et à répondre à ses rêves. Et donc, pour cela, nos enjeux principaux, c'est de créer des itinéraires de sortie durable. Et comment est-ce que nous y travaillons ? En développant tout un programme d'orientation scolaire professionnelle, de façon à trouver pour chacun de ses enfants, quand je dis chacun de ses enfants, nous en avons 7000 chaque année, hein, donc pour le maximum de ses enfants, de pouvoir travailler avec lui un parcours individualisé. Pour certains, c'est après la troisième, étudier vers un bac pro, l'équivalent d'un bac pro dans l'une de nos 5 formations professionnelles. Pour d'autres, ceux qui peuvent aller jusqu'au bac, c'est aller jusqu'au bac et ensuite les accompagner dans un parcours universitaire. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est la formation professionnelle, parce que formation professionnelle, c'est 2 ans après le brevet, avec une classe préparatoire avant le brevet pour les mettre à niveau, et en veillant à ne pas les perdre en route.
Et c'est la garantie aussi d'un avenir professionnel, et ensuite c'est sur ça que se fondent les familles, et c'est sur ça que se fonde l'avenir finalement. Est-ce que vous auriez des témoignages, des histoires qui vous ont marqué et qui nous permettraient de saisir cet enjeu dont vous nous avez parlé ?
Voilà, il y en aurait beaucoup, mais je vais vous parler de mythes. Un jeune garçon de 18 ans, qui a grandi dans une famille à la campagne de 13 enfants. Et il était pensionnaire. Pensionnaires, ce sont ceux qui sont complètement pris en charge à 100%. À chaque fois que je vais à PSE, j'y vais à peu près 2 fois par an. Je ne sais pas comment il fait, mais il me trouve toujours. Et Mitt, il avait un rêve. Il a suivi le parcours de rattrapage scolaire et puis une formation hôtelière en service de chambre. Et là, maintenant, je l'ai vu, je suis allée au Cambodge en décembre encore. Et le soir de mon arrivée, je ne sais pas comment il m'a trouvé, il était là. On s'est assis ensemble, tous les deux. Puis il me dit, tu sais, ça y est. Alors, on parlait en anglais. Il me dit, d'ailleurs, il parlait bien, beaucoup mieux anglais que même encore 6 mois avant. Et il me dit, mais avec, maintenant j'ai un job, ça y est, je travaille à tel hôtel, et j'ai économisé avec mon, et avec mon salaire, j'ai acheté une moto pour mon papa. Il est d'une famille de 13 enfants à la campagne, ils n'avaient pas de moto, et Mitt, tellement content, il a offert. Puis il me dit après, et puis quand même, je me suis acheté un téléphone aussi. tellement fier. Et puis l'autre, alors l'autre, bon ben, c'est notre Lakena, Lakena qui est directrice générale de PSE, alors que Lakena est l'une des toutes premières enfants qui a été accueillie à PSE à 8 ans. Et pourquoi elle a appris le français en suivant Christian et Marie-France sur la décharge, en les écoutant, en essayant de comprendre ce qui se passait entre Christian et l'interprète qui traduisait ce que disait Christian. Jusqu'au jour, un jour, au bout de quelques temps, Christian entend une petite voix derrière lui, mais qui répétait. Elle répétait ce que disait l'interprète. Alors Christian lui dit, tu comprends le français, toi? Ben oui, ben... Et comment tu as appris le français? Ben, je t'écoute. Et donc, vraiment, une tête bien faite. Et elle a maintenant 36 ans et elle est directrice générale de PSE.
Une question que je me pose régulièrement, Guylaine Dufour, avec votre association et avec toutes les autres, c'est les relations avec les parents des enfants. On sent que du coup, vous prenez à cœur l'éducation de l'enfant et en même temps, ce rôle des parents qui n'est pas nié. Comment est-ce que vous faites pour articuler tout ça?
Oui, vous avez tout à... C'est une effectivement très, question très pertinente, comme chacune de vos questions. Dès le départ, il a fallu convaincre les parents de laisser leur enfant aller à l'école. La solution qui a été trouvée, c'est de donner du riz aux familles en échange du fait qu'ils laissent les enfants aller à l'école. Puis on rigole pas avec ça. Hein. Oui, c'est-à-dire que quand l'enfant sèche 3-4 fois de suite et que l'assistance sociale est allée dans la famille et n'a pas eu de réponse satisfaisante, eh ben on diminue le riz pour que les parents. Parce que souvent c'est que les parents renvoient l'enfant travailler. C'est pour ça que l'enfant ne va pas aller. Quand c'est ça là, souvent quand c'est ça la raison. Mais sinon, autre chose. Nous réunissons, nos équipes au PSE réunissent plusieurs fois par an, trois fois par an, les parents à PSE pour les sensibiliser à la nécessité de l'éducation, à la valeur de la scolarisation de l'éducation, pour les former à interagir avec ceux qui ont leurs enfants scolarisés en école publique, interagir avec les professeurs, à se tenir au courant, s'intéresser au travail que font leurs enfants, et puis croire. Apprendre aux parents qui peuvent faire confiance à l'école et faire confiance à ce que leur enfant a en germe, en eux, et l'accompagner.
Guylaine Dufour, je pense à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent « Je suis marqué par le projet de PSE et moi j'aimerais aider cette association. » Comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider depuis la France ?
Ah ben oui, effectivement, oui, parce que c'est vrai ce qui est important à dire, c'est que PSE ne vit que de dons privés à 99%, pas aucune subvention, que des dons privés, donc sous forme de parrainage, des parrainages non nominatifs, c'est-à-dire des paiements récurrents, et puis du mécénat et des dons de fondations, de grands donateurs, d'actions de bénévoles, il y a tout un réseau extraordinaire de bénévoles organisés autour de ce que certains appellent des délégations régionales. Pour nous, ce sont nos antennes. Nous en avons 26, 18 en France, 8 à l'étranger, dans quelques pays, et qui organisent des bénévoles qui organisent tout du long de l'année des activités, des concerts solidaires, des pièces de théâtre, des ventes, tout au long de l'année, avec beaucoup de créativité, beaucoup de générosité. Et puis, la première chose que nous recherchons toujours, c'est des parrainages, donc non nominatifs. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, si vous voulez nous aider déjà, si vous voulez connaître un peu mieux l'association, ben nous organisons une dizaine de soirées de la tournée annuelle dans les semaines qui viennent. Et je peux vous donner les dates, là, si
allez-y.
J'ai deux minutes.
Allez-y, il y a une minute.
Eh bien, le 4 février, nous serons à Thorens, près d'Annecy. Le 12 février, à Paris, à Notre-Dame-de-Lorette, dans le 9e. Le 7 mars, à Clisson, près de Nantes. Le 18 mars, à Paris, dans le 15e. Le 19 mars, à Croissy-sur-Seine. le 20 mars à Saint-Didier au Mont-d'Or, près de Lyon, et le 27 mars à Bayonne.
Merci beaucoup, Guylaine Dufour, présidente de l'association Pour un sourire d'enfant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci beaucoup, Joseph.
Et puis si, amis auditeurs, vous désirez en savoir plus sur l'association Pour un sourire d'enfant, je vous renvoie au documentaire Les Pépites, un documentaire vraiment extraordinaire que j'ai eu l'occasion de voir et qui vaut vraiment le coup d'être vu. Et puis merci à vous, amis auditeurs, d'être toujours présents, toujours fidèles pour notre émission Orient Extrême. Je vous invite à aller consulter le podcast et à partager largement notre émission. Vous tapez Orient Extrême Radio Notre-Dame sur Google, vous tombez sur les émissions en podcast. Je vous souhaite une excellente semaine, amis auditeurs, que la paix soit avec vous.